L'évangile que nous venons d'entendre dans sa finale pourrait être un évangile qui nous décourage de venir à l'église parce que Jésus est très clair en nous disant à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Et si nous sommes là aujourd'hui à venir prier un dimanche matin, c'est parce que nous avons reçu beaucoup et parce qu'on nous a confié beaucoup. Nous avons la chance d'avoir reçu ce dont l'Épître aux Hébreux nous a parlé longuement avec puissance, la foi qui permet de voir l'invisible, qui permet de connaître ce que l'on ne peut pas découvrir de manière naturelle, qui permet d'accueillir la révélation, d'entendre Dieu qui parle, qui nous guide et qui nous se révèle tel qu'il est. Nous avons donc reçu beaucoup. Il y a deux types de connaissances dans la vie. Il y a la connaissance qui fait l'unanimité, on va dire, la connaissance scientifique à travers l'expérimentation, la recherche et les calculs, qui fait des merveilles, hein, il faut bien l'avouer. On voit des merveilles dans les découvertes scientifiques tous les jours, celles qu'on apprend à l'école. Et puis, il y a un deuxième type de connaissance qui n'est pas moindre, mais qui est différente, qui est complémentaire et qui enrichit aussi la première. C'est la connaissance de la foi. La connaissance de la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous faire découvrir qui il est, de se révéler à nous et de nous donner, d'avoir accès à quelque chose qu'on ne peut pas scientifiquement découvrir. Certes, il y a, à travers la philosophie, on peut considérer qu'il est plus raisonnable de croire en Dieu que de ne pas y croire, mais ça ne nous dit pas de qui est Dieu. Et vous le savez, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui se disent croyants, et aussi des francs-maçons par exemple, qui se disent croire en Dieu. Mais ils croient à une personnalité divine, à quelque chose, un être suprême, qui simplement, comme ils disent, hein, comme le grand horloger, celui qui a mis la pendule en marche et qui la regarde tourner. Nous, ce n'est pas notre foi, hein, ce Dieu-là, impassible, qui est complètement indifférent à notre sort, ce n'est pas ce Dieu-là auquel on croit. Dieu s'est révélé à nous, la parole de Dieu nous en parle. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui a pris chair, nous a dit qui il était, nous a manifesté son amour. Dieu est actif, Dieu est présent, et par l'action de l'Esprit-Saint, il est présent. Toujours est-il, tout cela pour dire que nous avons beaucoup reçu, puisque nous avons reçu le don de la foi, et donc nous avons, le Seigneur attend beaucoup de nous. Mais à y regarder de plus près, dans l'évangile que nous venons d'entendre, on s'aperçoit que Jésus, en disant cela, répond à une question de Pierre, qui dit « Est-ce pour nous ou pour tout le monde ce que tu dis ?» Et en fait, Pierre, à travers sa question, à travers la réponse de Jésus, hein, vous relirez tranquillement, on s'aperçoit qu'il s'adresse d'abord aux pasteurs de l'Église, aux apôtres en premier, qui étaient devant lui, mais ensuite à tous les pasteurs. Et là, cette parole se fait encore fait trembler encore davantage les pasteurs. En tout toujours est-il que, si je vous dis cela, c'est surtout pour que vous priez pour vos pasteurs, pour que, eh bien de fait, hein, Dieu leur a beaucoup confié, ils ont beaucoup reçu, eh bien qu'ils soient fidèles à leur mission. Et il nous faut prier pour cela, parce que voilà, nous sommes tentés, comme tout le monde, d'être légers dans notre foi. Hein, ne croyons pas que c'est parce que nous sommes prêtres consacrés que pour autant on ne peut pas d'un seul coup s'attiédir et négliger notre vocation et l'évangile. Priez pour vos pasteurs, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Première chose, je voulais vous faire peur, ensuite je vais vous rassurer que les pasteurs sont plus visés que les fidèles. Voilà. Et maintenant, voyons un ou deux points de l'évangile qui s'adresse tout de même à tous, hein, qui nous interpelle tous. D'abord, cette belle expression que Jésus utilise au début de cet évangile. « Sois sans crainte, petit troupeau ». Le fait que Jésus exprime sous forme de s'exprime en disant petit troupeau, ça nous montre une certaine proximité, une certaine intimité, une certaine familiarité avec ceux à qui il s'adresse. Petit troupeau, pour nous qui sommes des êtres humains, on se dit que si c'est petit, ça veut dire que Jésus connaît tout le monde, que Dieu connaît chacun. Alors évidemment, comme Dieu, il n'est pas comme nous, même si le troupeau est grand, même si nous estimons qu'il est grand au niveau nombre, Dieu nous connaît chacun. Ceci nous dit cela. C'est-à-dire qu'en disant petit troupeau, il dit vraiment, je prends soin de toi, je suis à tes côtés, je connais chacun, je me préoccupe de chacun, personne n'est oublié. Et il s'occupe, nous le savons, par l'évangile, par la vie de Jésus, nous le savons, il s'occupe particulièrement de ceux qui en ont le plus besoin. Il va chercher la brebis égarée, il prend soin de celui qui tombe, il guérit, il sauve. Voilà, le Seigneur nous est proche, le Seigneur est proche et il nous est intime, il est à nos côtés. Et il nous dit aussi, sois sans crainte de ne pas nous laisser prendre comme on peut se faire avoir par toutes les raisons de craindre l'avenir, le présent, l'avenir, notre vie, pour notre santé, pour notre... Sois sans crainte. Jean-Paul II, en devenant pape, disait « N'ayez pas peur. Sois sans crainte. Le Seigneur nous connaît. Il s'occupe de nous. Nous sommes son petit troupeau. Il est à nos côtés. » Et cette relation d'intimité, de confiance d'un père par rapport à son enfant, vous avez remarqué dans la collecte, la prière du début de cette messe qui résume un peu ce que sera la tonalité de la messe, eh bien, il nous dit « Fais grandir en nous l'esprit filial. Soyons sans crainte, soyons en la confiance, nous sommes le petit troupeau du Seigneur, il nous connaît, il s'occupe de nous, il est notre consolation, il est notre sécurité. » Et il ajoute, Jésus ajoute, « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors, il vous rappelle que vous êtes ses enfants. « Votre Père. » Et c'est Jésus qui parle. « Votre Père a trouvé bon. » « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et c'est ainsi qu'on peut être sans crainte. C'est ainsi qu'on peut vivre notre vie chrétienne avec des perspectives nouvelles. C'est parce que nous ne nous limitons pas, en tant que chrétiens, à simplement vivre notre vie, faire tout ce que l'on peut sur cette terre, fonder une famille pour ceux qui y sont appelés, réussir un certain nombre de choses, conserver la santé, etc. Nous ne devons pas nous limiter à ça. Sinon, nous pouvons tomber dans la crainte. Parce que de fait, constat est, c'est que le Seigneur, s'il prend soin de nous, il ne prend pas soin de nous comme nous, on voudrait qu'il le fasse. C'est-à-dire, par exemple, en nous préservant de toute maladie. Pas ainsi qu'il prend soin. Il prend soin de nous, mais en vue du royaume. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est-à-dire, c'est une perspective beaucoup plus large, qui dépasse même, parce qu'aujourd'hui on voit bien, et même dans le milieu chrétien, c'est le cas aujourd'hui, la famille. Et même ceux qui ne construisent pas des familles naturelles, normales, enfin classiques, eh bien même eux, c'est la famille. La famille, les enfants, le conjoint, et puis voilà, ceux qu'on aime bien. Voilà. Quand ça va bien, tout le monde va bien. Aucune perspective autre. Et donc, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous limiter à ça. Nous sommes invités à ne pas négliger notre famille, bien évidemment, c'est notre premier devoir d'État, mais en même temps, à réaliser que nous faisons partie d'une plus grande famille, qui est le royaume, qui est l'avènement du royaume, à découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qui dépasse notre vie. Et même si notre vie, apparemment, humainement, serait un échec, pourrait être un échec, en fonction du royaume, Si nous sommes comportés comme les enfants de Dieu, nous avons eu confiance, nous avons essayé de sortir de la crainte pour être dans la confiance, eh bien, notre vie est réussie. La sainteté, c'est cela. D'ailleurs, il y a un certain nombre de saints qui, humainement parlant, n'ont rien réussi du tout. Nous, on met en avant souvent les saints fondateurs, des gens qui font des grandes choses, mais en fait, il y a plein de saints, et même des canonisés, hein, qui n'ont rien fait. Qui n'ont pratiquement rien fait. Ils ont simplement vécu leur vie dans une relation filiale avec le Seigneur, dans la foi, vraiment dans la foi, dans cette connaissance de la foi, et ils ont eu une fécondité qui dépasse donc toute celle que les calculs pourraient nous montrer. Voilà, nous devons vivre en fonction du royaume et réaliser que notre vie, c'est pour le royaume. Et une vie offerte, une vie chrétienne offerte, porte une fécondité à l'autre bout du monde. Et pas pour notre famille, ou pour moi, ou pour je sais pas quoi, pour un quelconque retour sur l'investissement personnel. À l'autre bout du monde. Thérèse de Lisieux, malade, marchant dans l'allée des marronniers, dans le Carmel de Lisieux, eh bien, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors qu'elle était, elle n'était pas encore complètement agonisante, mais elle ne pouvait plus marcher, elle était sur un fauteuil. Eh bien, elle dit, je marche pour les missionnaires, à l'autre bout du monde. L'offrande d'une vie, c'est cela la valeur ajoutée que nous pouvons donner à notre vie, et c'est cela notre message chrétien. Quelle que soit notre vocation, nous sommes invités à ne pas la vivre que pour une réussite simplement limitée et finalement un peu païenne, qui se limiterait à notre petit environnement, etc. Mais à réaliser que notre fécondité peut être beaucoup plus grande dans la mesure où nous vivons de la foi et dans une belle relation avec Dieu. Et nous cherchons à mettre en œuvre cette foi à travers en particulier la charité. Et puis, et je termine là-dessus, et puis le Seigneur nous explique comment rester dans cette attitude. Vendez tout ce que vous possédez. Alors, ce n'est pas automatiquement une réalité concrète, surtout quand on a charge familiale, mais ça veut dire qu'il ne faut pas donner trop d'importance aux biens terrestres. On en a besoin. On a besoin pour vivre. Hein, on a un corps. Mais voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on ne sait plus bien, en tout cas chez nous, malgré tout ce qu'on dit, on est tellement dans l'opulence qu'on ne sait plus bien qu'est-ce que c'est une vie simple. Qu'est-ce que c'est une vie simple? Ou jusqu'à quel point il faut vivre pauvre? On ne sait plus trop. Il ne s'agit pas d'être dans la misère, ça n'a rien à voir. Mais voilà, avoir eu les papes récents, hein, nos papes récents nous invitent de plus en plus fortement à retrouver une simplicité de vie, une certaine, à ne pas rechercher le luxe et ne pas trop s'appuyer sur l'argent, ne pas donner trop d'importance à l'argent. Et puis Jésus précise cette parole très, très interpellante, hein, là où est ton cœur. Attendez, pour voir si vous suivez. Là où. Je ne vais pas le retrouver en plus. Vous avez retenu. Bon. Voilà. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si c'est dans ton compte en banque, dans ta maison familiale, dans ta réussite humaine, c'est là ton cœur. Il n'est pas en Dieu. Si, au contraire, tu essaies de mettre ton trésor en Dieu, eh bien, tout est différent. Hein, ce n'est pas qu'on néglige les choses humaines, mais on les remet à leur place, on les sert beaucoup mieux, avec beaucoup plus de détachement. Voilà, et puis, restez en tenue de service. Gardez vos lampes allumées. Alors les pères de l'Église vont dire la lampe allumée, c'est la lampe de la foi, hein. C'est-à-dire de vivre notre vie dans la foi, avec un regard sur Dieu tout le temps. Tout événement, les joies aussi et les peines doivent être faites avec un regard sur Dieu et pas simplement un regard sur moi, sur mon problème ou sur le problème en lui-même, mais toujours tourné vers et les joies aussi, ne pas oublier de mettre les joies de remercier Dieu et de mettre nos joies avec, dans la foi, en demandant qu'elle porte les bonnes nouvelles, demandons aussi qu'elle porte fécondité. C'est vrai que c'est la souffrance qui porte le plus de fécondité, mais même toute notre vie doit être féconde, y compris dans les belles choses. Voilà, alors je vais m'arrêter ainsi. Que le Seigneur nous aide par cette Eucharistie, hein, lui qui donne tout, qui nous montre l'exemple, et bien nous-mêmes à vivre en chrétien dans notre monde, soit sans crainte, petit troupeau. Amen.